Pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une question sur laquelle, étonnamment, on s'est peu penché au cours des 5 années qui nous séparent de l'épidémie de Covid. Que nous est-il arrivé au juste? Que s'est-il passé exactement? Comment en est-on arrivé là? Et d'autres questions plus gênantes, comme aurait-on pu éviter tout ça? Pourquoi étions-nous si mal préparés? En a-t-on tiré des leçons? Et enfin, quelles conséquences aujourd'hui sur nos vies intimes, professionnelles, sur la société et le monde entier? Toute cette semaine sur France Culture, on essaie de réfléchir à ce qui nous est arrivé avec une programmation exceptionnelle. Au pied sur terre, on s'intéresse seulement, si on peut dire, au confinement et en 5 volets jusqu'à vendredi, on se demande ce qui s'est passé entre les 4 murs de nos vies rétrécies. On commence par refaire un tour dans nos propres archives pour se souvenir de ce qui nous a remués. Et puis nous irons dans un EHPAD entièrement confiné pendant le Covid avant de donner la parole aux adolescents et jeunes adultes qui, comme les personnes âgées, furent les grands sacrifiés de cette pandémie. Enfin, on célébrera en nuance l'avènement du télétravail avec ceux qui le kiffent et ceux qui en sont venus à le détester. Tout de suite, le confinement vu par un prof, un détenu, un jeune lecteur et une personne âgée.
Voilà, je me prénomme Stéphane, j'ai 43 ans, je suis professeur de français dans un collège REP, réseau d'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis. Alors pour moi, tout a commencé au collège, dans la salle des profs, c'était l'effervescence, on a tous été pris de court. Le ministre de l'Éducation a dit qu'on était prêts, que l'éducation nationale était prête pour l'enseignement à distance. Premier jour sans école, la veille du confinement, nous avons tenté de nous connecter sur le fameux site, en vain. Une page blanche avec écrit 504 Forbidden Access pour tout le monde. Donc impossible de consulter le cahier de texte et de commencer à travailler. Donc le premier problème est d'ordre technique. Il faut imaginer tous les collégiens de France et de Navarre en train d'essayer de se connecter en même temps. Et évidemment, les serveurs informatiques n'ont pas pu suivre. Le lendemain, mardi, c'était à peu près la même chose. Sauf à se connecter à 7h du matin ou à 23h le soir. Mercredi, ça a été très compliqué également. Alors, ironie de l'histoire, les professeurs, de leur côté, continuaient d'envoyer des fichiers sur cette plateforme et ça s'accumulait, si bien qu'on a tous pris du retard. À partir de jeudi, j'ai constaté une amélioration des choses, les connexions étaient plus fluides et là, on a pu commencer à se mettre au travail. Moi, je me suis rendu compte que la priorité, c'était pas d'assommer les élèves de travail, mais plutôt d'abord de les rassurer. Et le moyen le plus sûr pour rester en contact avec des élèves et leurs parents, ça reste quand même le bon vieux téléphone. Et en tant que professeur principal d'une classe, j'ai appelé tous mes élèves et tous leurs parents. Alors, on se rend compte qu'un tel, hier encore, n'avait toujours pas relevé son courrier. Un autre tout penaud qu'il avait perdu ses codes d'accès. L'imprimante, c'est quand on en a besoin qu'on se rend compte qu'elle ne marche plus, qu'il n'y a plus d'encre, qu'il n'y a plus de papier. Alors donc des énormes disparités de matériel, une inégalité sociale très réelle à cet endroit-là. Autre problème, je me suis rendu compte, c'est la question des connaissances informatiques. Tous nos élèves savent jouer très bien, beaucoup mieux que moi, à Fortnite. Ils ont tous une connaissance très fine des pouvoirs de toutes les cartes Pokémon. Tout le monde sait scroller très bien avec le pouce. Tout le monde est très agile avec ses doigts, mais ça s'arrête là. Alors j'ai eu dans ma classe 2 élèves qui m'ont avoué qu'ils n'arrivaient tout simplement pas à ouvrir les fichiers que les professeurs avaient envoyés. Ils n'arrivaient pas à les lire. Ils ne maîtrisent pas le vocabulaire de base de l'informatique. Pour eux, PDF, Word, OpenOffice, ça les dépasse. Alors ben, je me suis improvisé conseiller informatique. J'ai ouvert ma propre hotline à la maison, alors que vraiment je suis pas beaucoup plus avancé qu'eux. Hein. J'ai même une peur bleue des souris. J'ai reçu un message d'un de mes élèves, un jeune Ivoirien, qui est arrivé en France au mois d'octobre. Et alors, attendez, je vais vous lire le message qu'il m'a envoyé hier. « Bonjour monsieur, merci pour votre engagement et votre motivation, ainsi votre disposition pour nous les élèves. » Donc, le virus va nous permettre de réconcilier peut-être certains élèves avec l'école. Parce qu'on aura réussi, pendant 2 ou 3 semaines, de débarrasser l'école de tout ce qui est déplaisant dans l'école. Les horaires, les notes, les professeurs, la contrainte, l'effort, l'étude. Alors moi, je marche à tâtons, j'invente, mais j'avance. Il faut être capable de se mettre dans la peau de l'élève le moins scolaire qui soit. Mais voilà, paradoxalement, cette période nouvelle nous permet d'avoir une relation plus douce, plus apaisée avec les élèves, plus personnalisée, plus ciblée. Et visiblement, j'ai l'impression que pour beaucoup d'élèves, ils ont plus à cœur de travailler dans ces conditions-là. Alors je parle des élèves plutôt décrocheurs, que dans le cadre strict de la classe. Bon, voilà, si on arrive peut-être à réconcilier certains élèves avec le savoir, on n'aura pas tout perdu. Et je suis très confiant pour l'avenir.
Quand j'apprends qu'on est confiné, au tout début, je dors. Je pense que la première semaine, je dors tout le temps. Et après, je me suis mise à lire. Dormir et lire, c'était assez paradisiaque. Au début, on se dit, ouais, trop bien. On sent pas encore trop la pression du confinement, il y a plein de gens qui meurent. Enfin, c'est encore le tout début. On sait juste qu'on sait pas trop ce qui va se passer après. Il y a un doute, mais comme c'est sans précédent, on se dit que de toute façon, ça finira bien par s'arrêter. Et puis... Moi, il m'en faut pas grand-chose pour m'évader. Je prends mes romans, je me pose dans le hamac, je lis toute la journée et je m'envole très très loin. Donc, ouais, c'est comme ça au début. Je m'appelle Savannah. Je vais vous parler du livre qui m'a le plus marqué, bon, pendant le premier confinement, mais tout court, en fait, je pense, dans ma construction d'adulte, on va dire, parce que maintenant, ça y est, j'aurai bientôt 20 ans, donc je suis adulte. Et c'est « Mémoire d'une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir, qui quand même exprime bien le fait d'être paumé quand on est jeune, le fait de se chercher, tous les doutes de la jeunesse. Quand je le découvre, je suis vraiment surprise et je suis vraiment émerveillée, parce que c'est tout ce que je ressens. Comme dans ma construction, dans le fait d'être une ado, de se chercher. On a envie de tester, de goûter à tout. Et en même temps, on se dit tout le temps, mais j'y arriverai jamais. Mais moi, je suis personne, je suis rien. J'ai pas fait mes preuves face à l'existence. Et de se dire que Simone de Beauvoir, elle a pu ressentir ça. Alors que Simone de Beauvoir, c'est quelqu'un qui a révolutionné la pensée. Et qu'elle a pu se dire, je suis rien, j'arriverai à rien. Je comprends rien à la philo, alors que c'est une ponte de la philo moderne. Je comprends rien à l'écriture, alors qu'elle écrit magnifiquement bien. De se dire qu'elle a pu penser tout ça, c'est absolument dingue, en fait. Et de se dire, waouh, mais t'es comme moi, en fait. Je pensais pas que tu pouvais être comme moi à ce point. Et je pensais pas que je pouvais me sentir aussi comprise par Simone de Beauvoir jeune, en fait. Et me reconnaître autant en elle. Mais je peux peut-être la citer, genre les passages qui m'ont du coup le plus marqué. Mon cahier de culture, comme je l'appelle. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux, rien et rien, mon livre, vanité. La philo, j'en suis saturée, l'amour, trop fatigué, pourtant j'ai 20 ans, je veux vivre. Moi, je dis tout le temps que je suis une extrémiste des émotions. et elle aussi, dans son livre, il y a cette intensité des émotions qui est très très forte. Et du coup, cette envie de, des fois, de, je me dis, il faudrait que je sois plus posée, il faudrait cette envie de, ouais, de, d'être cette jeune fille calme que tout le monde voudrait qu'on soit, alors que pas du tout. Je suis très très en colère, très très révoltée, très très passionnée. En tout cas, je devais conserver ce qu'il y avait de plus inestimable en moi, mon goût de la liberté, mon amour de la vie, ma curiosité, ma volonté d'écrire. Et là aussi, la rage de vivre, c'est toujours le cœur, en fait. Et c'est pour ça aussi que je suis si touchée par Simone de Beauvoir. C'est que c'est vraiment, enfin... Je me dis qu'il faut avoir envie de vivre pour tenir 4 ans en attendant la fin. Je me projetais étudiante à Sciences Po, exactement comme je le suis. J'imaginais que peut-être un jour, j'aurais... mon appartement, exactement comme maintenant. Bon, là, j'y suis pas parce que, bon, bah, Covid, donc retour à la maison. Mais j'avais enfin la vie que je voulais, quoi. Enfin, je commençais, j'étais à l'aube, là, ça y est, je tenais un truc, c'était parfait, et là, et ben non. Et, finesse, je vais passer mes 20 ans confinés, quoi. Je veux dire, je sais qu'un 20 ans, c'est juste un chiffre, c'est juste un âge, mais justement, quand on va les avoir, c'est important, et on se dit, waouh, je vais avoir 20 ans. Ça marque quelque chose et finalement je vais le passer enfermé entre 4 murs à la maison devant mon ordinateur alors que si j'avais pu aller me poser sur une terrasse avec mes amis pour fêter mes 20 ans, j'aurais été super contente. Et ça finalement on me le refuse. Par exemple Simone de Beauvoir, là je centre tout sur elle, mais si je devais parler à Simone de Beauvoir de mon âge et lui parler de tout ce qu'elle a et que moi j'ai pas, je dirais que quand même elle a du bol parce que... Même si elle était privée de plein de trucs, même si elle n'avait pas une liberté totale, qu'elle était dans une époque qui finalement était beaucoup plus conventionnée et où les jeunes filles avaient beaucoup moins de liberté que moi, bah finalement elle pouvait courir les bibliothèques autant qu'elle voulait. Que tu pouvais courir les bibliothèques autant que tu voulais. Que tu pouvais juste t'arrêter au milieu de la rue et t'asseoir sur un banc sans attestation. Que tu portais pas de masque. Que tu pouvais sourire aux inconnus du coup parce que t'avais pas de masque. Que tu pouvais faire des câlins à tes amis quand tu voulais, que tu pouvais aller au théâtre, aller au cinéma, aller voir des expos, traîner des heures dans les musées, que tu n'avais pas besoin de choisir un créneau horaire pour aller dans un musée, juste tu pouvais y aller. Bref, que tu avais la vie que j'aimerais bien la retrouver maintenant. On a l'impression qu'il y a une mécanique aussi qui s'installe. Alors on se dit, mais putain, mais si ça va être ça tous les 6 mois, si tous les 6 mois on doit être confiné, mais moi je veux pas vivre comme ça, c'est pas une vie. On voit à peine demain, on est suspendu aux infos, aux allocutions du président, qui en plus ménage son suspense, qui met 15 minutes à annoncer chaque mesure, et nous on est là, on est suspendu à ses lèvres, mais crache le morceau s'il te plaît, est-ce que je vais pouvoir sortir? Est-ce que je vais pouvoir passer la porte sans attestation? Est-ce que je vais pouvoir juste aller en cours? Parce que finalement on demande pas plus que ça en fait, hein. Enfin moi je demande pas plus que ça, je demande juste à pouvoir aller en cours. En face à face, pas derrière un écran, parce qu'on est seul derrière son écran. Celui-là, alors je vais lire un poème que j'ai écrit au début du confinement. Les jours passés, les jours présents, quelle différence quand j'y pense. Hier, aujourd'hui, demain, sans frein. Le présent s'étire, lent, sans jamais se muer en passé, sans jamais vraiment passer. Il s'est installé, et moi dans mon canapé, j'attends, et je regarde le temps. Et la vie par la fenêtre, celle que j'avais, celle dont je rêvais, celle que je devrais, sans pouvoir y goûter, sans pouvoir y toucher, j'ose même plus en rêver.
Je m'appelle Danielle Cécile, J'ai 74 ans, enfin du moins je me prépare à les avoir. J'habite Dinard depuis 3 ans. J'ai quitté le Midi quand mon mari a été paralysé. Il a 86 ans, est hémiplégique, c'est un peu lourd pour moi. Je n'ai plus de vie sociale du tout. Et donc, et mercredi, jour des enfants, il y a une dame qui vient m'aider, qui s'appelle Guinaëlle, et elle vient faire déjeuner mon mari, et je rentre à 18h. Et c'est mon petit moment de liberté de la semaine. Donc, si vous voulez, pour moi, ce confinement, c'est la double peine. Parce que ce jour, ce demi-jour de liberté, ben je ne l'ai plus. Et puis, on dit les aidants, mais être aidant, c'est votre quotidien qui est bouleversé, quoi. C'est tout le temps. Hein. Tout le temps. C'est jour et nuit. Parce qu'avant, j'avais quelqu'un qui s'occupait du ménage, de machin, de tout. Et maintenant, je fais tout. Depuis 3 semaines, je fais tout toute seule, comme une grande. Mais les infirmières libérales passent 10-12 minutes. Le samedi, c'est la douche, donc là, c'est plus youx. Mais autrement, je le sors des toilettes, je le relave, je le change de fauteuil, je mets la crème, je lui lave les dents, je fais tout. Voilà, je prépare le repas et je m'occupe de moi un peu. Et au milieu de tout ça, voilà, la journée passe vite, en fin de compte, parce que toute ma matinée est occupée par mon mari. Après, ben, je fais son lit, je change les draps, après je l'emmène dans le salon avec sa table, ses journaux, enfin, il ne lit plus que d'un œil, donc c'est difficile. Et puis d'autre part, il n'a plus ses facultés cognitives, donc je ne peux pas discuter avec lui, très peu. Donc, et ça, c'est dur aussi. Son cerveau n'est plus apte à comprendre. Donc, si vous voulez, je m'occupe. J'ai lu, je ne sais pas qui a écrit ça, « Main occupée, mauvaise pensée chassée ». Donc, je n'arrête pas. Je bricole sans arrêt. Ou je fais des papiers. Alors, je fais un truc qui m'embête. Puis après, je fais un truc qui me plaît bien. Donc, j'essaie d'alterner entre les trucs embêtants et les trucs qui me plaisent bien. Voilà. Et le matin, je me lève de bonne heure pour avoir 3 quarts d'heure pour lire tranquille. Sans avoir mon mari à gérer. Et c'est mon seul moment tranquille où, waouh, et quand il est couché. Là, le monde est à moi. Enfin, je lui prépare son dîner. Hein. Mais voilà. Aller jeter les bouteilles vides, prendre la voiture, rouler les vitres ouvertes et aller jusqu'au prochain carrefour avec mes bouteilles, mes plastiques. Eh bien, c'est un petit moment de liberté, oui. Avant, ce qui était corvée devient petit bonheur. Et puis, on n'est pas libre, quoi. Je ne peux pas sortir voir du monde. C'est comme si j'avais une voiture et qu'elle était en panne, que je ne puisse pas m'en servir, si vous voulez. Je peux pas sortir, quoi. J'ai fait une visite interdite à ma meilleure amie Jacqueline. On a toujours envie de faire ce qui est interdit, bien sûr. Je me suis fait copieusement attraper, pour ne pas dire autre chose. Et, oh là là, je m'en suis pris plein la tête. Mais si ses yeux avaient des mitraillettes avec son masque, j'étais descendue à bout portant. Hein. Alors là, maintenant, hier, j'avais une demi-heure devant moi, je me suis fabriqué des masques, alors en sopalin plié, doublé en filtre à café posé en quinconce, avec un élastique que j'ai acheté en bande de tissu avec un trou au milieu que je découpe, et je mets ça derrière la tête, comme ça me fait un masque. Et j'en fabrique pour ma voisine aussi. On a tellement besoin des autres, de les voir, de les toucher, de leur dire qu'on les aime, et on a du mal à rester sans voir personne. C'est dur. Les relations humaines, moi j'ai toujours fait des métiers d'accueil, j'aime bien voir du monde. J'ai besoin de moments de solitude aussi, mais j'ai besoin de voir du monde, de discuter. J'ai une voisine aussi que je vais voir, mais je reste sur sa pelouse et elle dans sa maison, comme si j'avais la peste et le choléra. Voilà. Il faudrait être capable de vivre comme si on allait tous mourir demain. et on serait moins bête, c'est sûr. On irait à l'essentiel. Voilà. Je vais aller voir mon époux, Ventable. Je l'appelle comme ça, même devant lui. Il s'appelle Joseph. Je vais aller le voir et puis je vais vaquer à mes occupations, c'est-à-dire que je vais repasser. Après, je ferai quelques papiers et après, j'irai faire le tour du pâté de maison pour m'aérer un peu l'esprit. Je prends les petits bonheurs, c'est-à-dire quand je vois le rouge-gorge le matin, quand je prends mon petit-déj, eh bien, c'est un petit bonheur. C'est mon oiseau préféré. Il est fier, indépendant et en même temps très convivial parce qu'il s'approche de vous facilement.
Je suis dans ma cellule, des barreaux, une porte, il y a la télé. Nous, on est deux ici en cellule. Il y a des cellules, ils sont trois jusqu'à quatre. Il y a même une doublette, une cellule de quatre maximum, où ils sont cinq, ils ont ramené un matelas par terre. Ben, moi, ça fait un an que je suis incarcéré, j'ai 20 ans. J'ai pris 5 ans avec un an de sursis, ça fait 4 ans ferme. Et là, depuis que Macron il parle, depuis qu'il y a les couvre-feux, tout ça dehors, ils nous ont enlevé les parloirs, ils nous ont retiré les deux promenades, notre cantine, on peut pas manger. Les surveillants à l'entrée, ils sont pas testés. Je parlais qu'un surveillant tout à l'heure, je lui disais, mais comment vous faites tout ça? Ils ont dit qu'en gros, à partir de cette semaine, ils vont être testés à l'entrée. Mais lui-même, il me disait, si on apprend qu'on a un collègue à nous, que dans cette prison, il a été et qu'il a été contaminé, ils m'ont dit, on va arrêter de venir. Donc après, ça va aller loin, Ils ont ni masque, ni, ils ont quoi? Ils ont des gants en plastique. Mon co-détenu m'a dit que la dernière fois, il était à l'UXA, l'unité spéciale médicale, en gros, l'infirmerie de la prison. Donc, cinq arrivants, ils sont descendus, cinq mecs avaient les symptômes du Covid-19. Ils ont pas de masque. Il y a un détenu qui est mort à Fresnes, ils ont dit qu'il y en avait que un. Que un qui est mort et qui l'avait et qu'il a pu contaminer personne vu qu'il a pas vu d'autres détenus. Mais c'est strictement impossible. Un détenu en détention, il ne peut pas ne croiser personne. C'est impossible. Voilà. Déjà qu'il y a un manque d'hygiène. On est dans une prison, elle est insalubre. Les murs, on dirait, ils vont s'écrouler. Il n'y a plus rien qui circule. Bon, il n'y a plus de linge. Les gens, ils peuvent plus fumer. Entre nous, plus de parloir. On voit pas nos familles. Déjà, c'est dur, mais surtout que tout le monde sait, même la direction. Parloir, c'est là-bas que ça passe. Voilà, le shit, la viande, des conneries. Enfin, en gros, il y a plus de shit dans la détention. Et à partir du moment où il y a plus de shit, les êtres humains, ils sont pas pareils. Ça va plus. Je vais passer mon call. Lui parle bien. Et si vous pouvez passer à parler avec lui.
Ouais.
Peut-être, voilà. Je te passais comme ça, tu parles un peu avec lui aussi.
Allô, ouais, bonjour.
Bonjour.
On est co-détenus.
D'accord.
On est ensemble dans la même cellule, en fait. Moi, j'ai 25 ans. Moi, le truc qui me fait bien rire, c'est l'appel à 20h d'applaudir par les fenêtres. Parce que nous, c'est ce qu'on fait en cas de match de foot ou quand on est content en prison, bah, ou quand on veut célébrer quelque chose, bah, on appelle pour les fenêtres. C'est un peu pareil, en fait. Votre ressenti, j'ai l'impression que dehors, ils se sentent un peu en prison. Ils doivent penser à nous sur leur canapé en disant, ah ouais, si j'étais un détenu, qu'est-ce que je ferais en attendant de passer le temps? C'est pas comparable. Ce qu'on vit, c'est on a des barreaux, on a une grille à la fenêtre. On n'a même pas des barreaux à la fenêtre. On a des grilles de 5 cm sur 5 à la fenêtre. On peut même pas sortir la main par la fenêtre pour sentir l'air ou truc comme ça.
On a fait des choses pour être là. On paye ce qu'on a à payer. Après, c'est dur. Hein. Parce que quand les gens, ils ont pas l'habitude de tout ça, là, ils ont une routine, c'est rester chez eux. Ça veut dire que même eux, ça crée des tensions avec leurs voisins, leurs familles, ils comprennent. Nous, c'est pareil en vrai. Vous entendez tout le boucan? pense. C'est à la fenêtre, regarde, attends, je vais faire. Les gens, ils craquent. Ils tapent dans leur port, dans leur barreau, tout, ça crie, ça dit que c'est l'appel à bloquer demain.
Allô ?
Hey, à quoi, Waldo ? Ouais, Wawa ! Hey, Wawa, là ! Hey, à quoi, y'a quoi ? Hein ? Y'a un humain, il a quoi ? Comment ça, il a elle ?
Ok, y'a un mec qui est sorti aussi de sa cellule, là, il a ouvert la porte s'est ouverte, il est sorti. C'est pour ça que ça crie. Ah, tu vois dans quel climat on est, là c'est juste à... Ah, je sais pas quelle heure, il est quelle heure, 22h. C'est chaud. C'est... Les gens ils craquent là, ils se comprennent que le Covid-19, ils savent que qu'en gros nous on va être les derniers sur la liste, même si à être soignés tout ça. Ils sont tellement débordés dehors que les gens ils veulent s'évader, je vous dis la vérité, les gens ils ont pété un point. On est dans un climat de fin du monde, on dirait ça.
C'était Le Confinement entre quatre murs, un reportage d'Élise Andrieux, Rémi Dibowski, Douat, Valérie Borst et Alice Babin. Des archives choisies et réunies par Valérie Borst, réalisées par Emmanuel Geoffroy, Cécile Lafont, Yaël Mandelbaum et remises en forme par Laure Chanel. À 18h sur France Culture et plus tard sur toutes les plateformes, ne manquez pas une série documentaire inédite, Covid-19, une pandémie sans fin, par Christelle Le Polothèque. Et le 16 mars au Théâtre de la Concorde, on vous en reparlera, mais il y aura un événement particulier sur scène, organisé par Les Pieds sur Terre, avec des récits autour du Covid. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre nouvelle stagiaire, c'est Luce Mourant. Et Inès Bouffartig-Sébastien est partie vers d'autres aventures. J'en profite néanmoins pour la remercier très particulièrement pour son investissement, son intelligence et sa bienveillance extrême.